Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à un autre épisode de Jason Ballon Rond, l'épisode 10 du podcast de soccer, donc où on revient sur le soccer, le ballon rond partout sur la planète, en Amérique, en Europe et même en Arabie Saoudite. Vous allez voir dans cet épisode, on va en parler de l'Arabie Saoudite. Pour en parler, je suis très bien accompagné pour cet épisode de Thomas Lafond et Doualé Ibrahim. Comment ça va, les boys?
Ah, ça va très bien, toi?
Ça va très bien, merci beaucoup.
Ça va très bien, boss, vous autres.
Yes, ça va très bien. Très actif dans le monde du soccer présentement.
Grosse semaine, c'est pas mal.
Effectivement. Puis bon, on va se lancer tout de suite dans le gros du sujet, dans le vif du sujet, les gars. Lionel Messi s'en vient en Amérique du Nord. Je l'espérais plus. Ça fait des années qu'on en parle que c'est possible. Mais personnellement, je l'espérais plus. On a vu l'offre de l'Arabie Saoudite. Il y avait des rumeurs aussi qu'il retournait au Barça. Finalement, il choisit l'Inter Miami AMLS. Selon Fabrizio Romano, la publication initiale, il jouerait seulement l'an prochain. Là, il y a plusieurs personnes qui sont enjouées comme s'il commencerait dès juillet, mais je sais pas où est la vérité. Moi, on croit Fabrizio là, qui a dit next season, mais voilà, il y a plein de monde qui achète déjà des billets pour l'Inter Miami ou qui c'est la folie furieuse pour. Mais est-ce que Messi va être capable de faire remonter Miami dans le classement? Bref, si on s'en tient à ce que Fabrizio Romano a dit, il vient, il arrive seulement l'an prochain, lors de la saison 2024. Bref, ça, je vais arrêter de parler, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée-là de Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire ou l'un des plus grands qui débarque en MLS? Je vais commencer avec toi, Adou.
Écoute, sensationnel, c'est pas compliqué. C'est probablement la plus grosse vedette aux États-Unis depuis longtemps. Hein. Honnêtement, là, ça me fait un peu penser à ben, on l'a pas vécu, là, mais Pelé avait fait un move similaire dans les années 70, après sa Coupe du Monde de 1970, qui a rejoint le Cosmos de New York à l'époque pour jouer en Amérique du Nord. Puis, en fait, c'était une sorte de tournée qu'il avait faite pour promouvoir le football en Amérique du Nord. Puis, j'ai vraiment l'impression que Lionel Messi arrive un peu dans cette même idée-là qu'a appelé à son.
À 50 son ans plus tard, avec un sport complètement différent, un marché différent aussi.
Ben oui, clairement, mais quand même, reste que t'es le soccer, comme on l'appelle en Amérique du Nord, c'est pas le sport le plus pratiqué. Ben, c'est probablement le sport le plus pratiqué quand même en Amérique du Nord, j'ose croire, là, mais c'est quand même pas le sport numéro un aux États-Unis. Puis là, avec une arrivée d'une vedette comme Lionel Messi, une des plus grandes célébrités sur la planète, peu importe le domaine, c'est quand même assez incroyable de voir ça. Puis écoute, pour Miami, écoute, c'est une belle opportunité de faire grandir le soccer dans la ville et aussi en Floride. Puis écoute, pour la MLS, il n'y a rien de plus grande nouvelle que ça. Puis écoute, moi, ce que j'ai hâte de voir vraiment, c'est de voir est-ce qu'il va y avoir d'autres anciens coéquipiers du FC Barcelone qui vont rejoindre Lionel Messi. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il allait y avoir Sergio Busquets qui va peut-être s'en venir du côté de Miami. Même chose pour José Alba. Suarez va tenter de venir rejoindre Di Maria aussi. Il y a même un autre aussi qu'on en parle très peu, mais qu'on l'a vu du côté de Miami traîner avec Jimmy Butler, le joueur vedette de Miami. Neymar aussi, c'est un joueur que je ne serais pas surpris de voir dans les prochaines années à MLS. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Mais écoute, c'est une grande nouvelle pour la MLS. Puis, écoute, de voir le meilleur joueur de notre vivant à nous jouer à MLS, quand même assez incroyable. Puis écoute, j'espère sincèrement qu'il va venir jouer à Montréal. Moi, c'est ça le souhait. Puis écoute, ça va coûter cher, mais écoute, c'est prêt à payer pour voir un joueur comme Lionel Messi, qu'est-ce qui arrive probablement une fois dans ta vie.
Lionel Messi au stade Saputo, juste y penser, c'est exceptionnel. Ouais, vas-y, Tom.
Ben écoute, je suis d'accord avec toi. C'est la meilleure nouvelle que la MLS peut espérer. En fait, ils ont donné quasiment le contrôle d'aller au complet. Pour ceux qui ne savent pas, je pense il y a des parts des abonnements du Season Pass d'Apple dans son contrat. Ils ont donné une franchise à MLS pour plus tard. Enfin, un peu le même contrat qui avait été donné à Beckham à l'époque
Il y a une part des revenus d'Adidas sur les maillots aussi.
Aussi. Fait que, écoute, ça va être absolument la folie furieuse quand les billets de la saison 2024 vont sortir. Écoute, c'est la plus grande nouvelle de l'histoire du soccer nord-américain que Messi vienne à l'Inter Miami. Là, la question qui reste à savoir, c'est qu'est-ce qui se passe si à juillet, à
février 2024
ou juillet prochain, est-ce que il y a eu des rumeurs comme quoi qu'il serait peut-être prêté au Barça à une dernière saison en Europe et s'en vienne après à Miami en 2024. S'il s'en vient l'année prochaine, je pense que c'est un scénario qui fait le plus de sens parce que je le vois mal se tourner les pouces pendant presque un an. Pour moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Mais vraiment, c'est une nouvelle incroyable pour la MLS et le soccer nord-américain. Si tu veux développer, en fait, ce sport-là, ici, c'est le move parfait. Puis on a déjà vu le compte Instagram de l'Inter Miami est devenu l'équipe avec le plus de followers de tous les sports nord-américains. Sa compagnie nationale, la NFL, la MLB, la NBA, sont rendus à 5 millions en à peine 48 heures. Donc, c'est
quand même
déjà, tu vois un impact immédiat.
C'est vraiment, là. Puis on a les billets aussi, là. Mais oui. Messi n'est même pas encore là. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va jouer vraiment. Et les billets sont rendus les moins chers à 400 quelques dollars, là. Fait que c'est absolument fou. Mais puis c'est très bon point que tu soulèves, Tom. S'il arrive bel et bien au début de la prochaine saison, autour de février 2024, qu'est-ce qu'il fait entre les deux? Puis en même temps, s'il retourne au Barça, est-ce qu'il va retourner au Barça pour juste une demi-saison? C'est vraiment...
S'il revient au Barça, je pense qu'il va jouer la saison complète et qu'il arrivera en juillet.
Ouais, ça c'est plausible. Mais c'est ça.
Si tu voulais racheter quelque chose, je trouve que c'est peut-être que ça, Tom, t'as acheté un bon point. Puis ça, c'était vraiment la question principale que je me posais par rapport à ce dossier-là. Qu'est-ce que Messi va faire s'il arrive à partir de seulement 2024? Mais ça va un peu ressembler comme Frank Lampard quand il a rejoint le New York City FC en 2015 ou qu'il a joué une dernière saison à Manchester City. Qu'est-ce qui pour moi était assez bizarre de voir Frank Lampard dans le camp des Mancuniens de Manchester City, des Citizens, pardon. Ça, c'était absolument absurde, surtout pour moi en tant qu'amateur, de voir ça. Mais c'est ça qui est arrivé, c'est que Frank Lampard avait joué une saison à Manchester City, vu que Manchester City et la situation ont le même propriétaire. Donc, par la suite, Frank Lampard a juste fait sa transition de City à la MLS pour jouer au New York City FC, qui venait juste d'arriver en MLS. Donc, est-ce que ça va faire la même chose avec Lionel Messi? Mais là, l'affaire, c'est que Est-ce qu'il y a une équipe du... Je pense pas qu'il y ait une équipe que... David Beckham n'a pas une équipe en Europe, là, ce que je sache. Donc,
je ne pense pas.
Puis aussi, Xavi en a parlé cette semaine. C'est quasi sûr que Lionel Messi ne va pas retourner à FC Barcelone. Donc, il va jouer où? C'est vraiment là la question. Est-ce que Messi va arriver maintenant? Est-ce que Messi va arriver l'an prochain? Puis, s'il arrive l'an prochain, est-ce qu'il va jouer à FC Barcelone? Est-ce que Messi va avoir... Puis, Messi, est-ce qu'il... T'sais, on en parle. Oui, il a peut-être pas joué. Il va pas jouer en Arabie Saoudite, mais Messi joue quand même un peu pour l'argent. Donc, est-ce qu'il va être capable de vraiment baisser son salaire drastiquement au point où que, genre, il va être quasi gratuit pour la
FC Barcelone? Ben, on n'a pas vu encore c'était quoi l'offre de Miami. Ça doit pas être pas beaucoup. Là. Ça doit être quand même plusieurs millions.
On parle de près de 50 millions par saison, plus les installations additionnelles, là, pour la Titus, une franchise à MLS, là, ça va finir avec au-dessus d'un milliard.
Ben, 50 millions, t'as vu ça où?
Précisément, je pourrais plus pas te dire, mais je pense que c'était Fabrizio. Là.
OK, bah, mais ben, j'ai pas vu ça, mais c'est ça, le plus gros du deal là-dedans, c'est tout... tous les facteurs externes là, que Tom parlait, là, Apple et Adidas et autres. Mais aussi, c'était important d'en parler. Il a dit, Messi, il n'a pas choisi. Ben, la nostalgie avec le Barça, C'est plus parce que c'est pas possible de le faire avec les finances du Barça. Là. Je pense que c'est ça, pour ça que ça ne s'est pas fait. Mais il a quand même choisi l'Amérique à l'argent parce que l'Arabie Saoudite, si les rumeurs sont vraies, lui proposait 1,6 milliard sur 3 saisons. Ouais. C'est-à-dire à peu près 530 millions par année. C'est absolument fou. Il y en a qui disent que c'était plus autour de 400 millions par année. Peu importe, c'est énormément d'argent. C'est absolument fou sur 3 ans. Donc, il a refusé ça. Donc, honnêtement, c'est un geste que moi, je salue beaucoup plus qu'un Ronaldo ou même un Benzema a fait, là, de quitter l'Europe pour aller dans complètement pour l'argent, il faut le dire. Là. Il n'y a pas d'autre raison que
d'aller. On en parlera après, okay. mais moi, je ne suis pas du même avis que vous deux là-dessus. Là. Mais ça, ça en
parle. Comment?
On en parlera après dans le segment.
Mais ouais, fait que là, c'est toutes des questions qui restent à soulever dans le dossier Messi. Quand est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il va jouer à quelque part avant d'arriver? Bref, mais admettons qu'il arrivait demain, là. Pas demain, mais en juillet, mettons, parce que c'est là qu'on est capable d'évaluer son niveau. Là, s'il joue pas ou presque pas pendant presque un an et qu'il arrive plus tard, ça va être une toute autre question. Mais maintenant qu'il arrive dans le prochain mois, l'Inter Miami est présentement dernier de l'association de l'Est, je pense, en MLS. À, je ne sais pas combien de points des séries également. C'est une équipe correcte. Là. Il y a quand même un Joseph Martinez, mais qui est vieillissant dans cette équipe-là. Il y a Kamal Miller. Il y a d'autres joueurs intéressants. Je ne connais pas par cœur l'effectif de Miami. Mais le niveau de Messi pour la MLS, comment vous voyez ça, vous autres? Est-ce que la différence qu'il serait capable d'apporter
Il va absolument dominer.
Ouais, c'est clair qu'il va dominer. Ça n'a pas de sens. On peut en parler, là, mais Zlatan Ibrahimovic qui est arrivé au même âge, Didier Drogba, ça va au même âge que lui. Là. Ils ont absolument explosé la MLS. Donc, imagine-toi, Lionel Messi.
Il a 37 ans.
Peu importe l'âge, c'est sûr qu'il va dominer la MLS. Sûr.
C'est à ça que je m'attends aussi.
À l'époque de Drogba, la MLS n'était même pas proche de où est-ce qu'elle est présentement. Donc, il y a ça. Mais Messi n'est pas le même joueur que Drogba aussi.
Puis, ouais, tu sais, Messi, au Paris Saint-Germain, par exemple, on lui reprochait souvent de marcher, de ne pas donner les efforts. Mais, tu sais, en MLS, je pense que s'il y a une chose qui pourrait être dangereuse, c'est que c'est plus physique. Là. Ça, c'est une réalité qu'il y a moins en Europe. Donc, il va peut-être falloir que physiquement, Messi... pas nécessairement soit physique, là. C'est pas dans le jeu de Messi du tout. Mais la marche ou son style de jeu, il va avoir une période d'adaptation certainement à faire en MLS. Puis les joueurs qui viennent d'Europe disent souvent ça de la MLS. Que ça va être intéressant de voir, mais je pense aussi que c'est Lionel Messi. Il ne peut pas faire autrement que de dominer, de rincer complètement. Puis s'il arrive dès juillet, j'aimerais beaucoup le voir faire remonter l'Inter Miami au classement et les faire atteindre les séries. Là.
C'est pour l'instant, c'est loin et fini. Ils sont à 6 points d'une place en série avec un match en main. En fait, la dernière place de barrage, pour une place en série officiellement, sont à 8 points.
C'est encore tout le monde dans l'Est peut faire les séries encore. C'est loin des
tours.
On est seulement à moitié de la saison. Puis c'est ça. Puis on ne sait même pas si Messi arrive cette année. Fait que tout ça, ce dossier-là au complet, va être à suivre. Messieurs, on peut.
Avant de passer au CF, il faudrait que je pose une question qui vient de me pomper dans la tête. Penses-tu que la MLS devrait se restructurer? En fait, le soccer nord-américain devrait se restructurer pour une formule plus européenne. C'est-à-dire qu'on laisse tomber les séries, on laisse tomber les conférences. On refait un peu la pyramide avec une deuxième division, avec, mettons, les petites pires équipes de la MLS qui descendent, puis qu'on fasse vraiment une structure européenne avec des relégations, 20 équipes, une ligue, puis pas de séries.
Moi, je dirais non.
Je dirais non plus, non, moi non plus.
Moi, je pense que le marché américain a vraiment son identité à lui, son système à lui. Oh, ben, ça ressemble beaucoup au hockey ou à n'importe quelle ligue. Et que pour des marchés américains, je pense au CF Montréal, si le CF se fait reléguer, il va avoir des problèmes financiers très certainement parce que t'es relégué, ça veut dire moins de revenus, puisque tu peux vendre tes billets moins cher parce que t'as pas de tu joues pas en MLS. Fait que je pense que ça va être trop dangereux pour plusieurs clubs de MLS qui ont peut-être pas financièrement. Puis je pense juste que c'est un système qui attirerait moins, je pense, que des séries éliminatoires comme on a toujours vu en Amérique du Nord. Fait que pour toutes ces raisons, moi, je dirais non. Cependant, ce que je changerais, c'est que je ramènerais les matchs aller-retour en série, ce qui rend ça beaucoup plus excitant. Je sais pas si vous rappelez, là, Toronto-Montréal en série, les matchs aller-retour, c'était malade. C'était extraordinaire. Parce que là, une confrontation directe, c'est, ça reste un match de série, mais c'est une seule chance. C'est juste un match qui tu peux pas, t'as pas la chance de revenir chez toi si tu perds ton premier match à l'étranger. Moi, je ramènerais 100% les matchs à les retours. Mm-hmm. Mais pas le système au complet.
Mm-hmm. Okay. OK, moi, pour répondre, je suis 100% du même avis que Lee. Je pense que, surtout au point de vue financier, c'est trop dangereux pour la MLS de faire ça. Surtout pour des clubs comme Montréal ou d'autres clubs où que t'es, ils ont besoin d'avoir une certaine hype pour que les gens puissent se déplacer au stade. Parce que, par exemple, on peut prendre l'exemple à Montréal, le CF, qu'on aime beaucoup, reste quand même le club numéro 2 de la hiérarchie à Montréal. Le Canadien de Montréal est toujours en avant.
Ouais, mais le Canadien, je
sais pas. Mais c'est ça.
Pour plusieurs, les Alouettes sont 2.
Et même pour plusieurs, les Alouettes sont 2. Puis, tu sais, en Europe, c'est la différence. Vraiment, pourquoi ça fonctionne bien, c'est que, si tu vois, le football là, est de loin le sport numéro 1 en avant de tout, de loin, 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 loin. Donc les gens ne s'inquiètent pas. Oui, c'est décevant de...
d'être relégué.
Des fois, ton club remonte tout, mais sauf que tu sais que des gens vont se déplacer au stade quand même, elles sont en division 2 ou 3, parce que c'est des fans finis de ce club-là. À Montréal, il y a quand même une fanbase qui est très bonne. Là, il y a des vrais partisans du CF Montréal là, qui se déplacent toujours au stade et tout. Mais j'ai vraiment l'impression que pour le bien collectif, surtout le bien de la MLS, ou que le soccer est peut-être pas le sport numéro 1, ça serait peut-être dangereux d'utiliser une formule qui marche en Europe, mais qui ne marcherait probablement pas ici, dû au fait que le sport n'a pas la même popularité en Amérique du Nord comparativement à l'Europe. Fait que c'est la raison principale pourquoi je pense qu'il serait mieux de garder la formule actuelle. Puis Ali l'a mentionné parfaitement, parce que je n'avais pas pensé le fait de racheter les matchs aller-retour. Ben, en fait, le retour de ce format-là, c'est absolument incroyable. Tu en parlais de la finale d'association de 2016. Ouais, j'avais regardé ces matchs récemment, c'est absolument phénoménal. Là. Tu vois le stade olympique qui est plein à craquer. 2015 aussi, ouais, mais 2015, SF, c'était rendu un peu moins loin.
Mais il y avait joué contre Toronto aussi, 2015.
Ouais, c'était rendu.
C'était 2015, c'était DC United,
mais ça. Ouais, ils avaient perdu.
Le but de Bernier, le but, la passe décisive de Bernier dans le même match là, contre Toronto, c'était en 2015. Ça.
2016, ouais,
ouais.
En tout cas,
ouais, c'est 2016, on a perdu contre Toronto. Puis en 2015, on avait gagné, je pense.
Ouais, mais en 2015, c'était pas. C'est parce que la différence, c'est que je pense qu'en 2015, CF avait perdu plus tôt. Je pense qu'ils avaient perdu encore ou quelque chose en même. Il me semble que c'était contre le coup de Columbus. C'est rare de vérifier les temps, juste pour être sûr. Mais,
ouais, je suis là-dessus.
Ok, mais puis, ouais, merci. Mais en
puis
tout cas.
En 2016, on... Puis en 2016, ils avaient perdu en finale d'association contre. Ouais. Contre Toronto en prolongation.
En prolongation, puis c'était un match de fou. Là. Ouais,
ouais. Ouais, c'était un match de fou. Genre, le CF a gagné 3-2 à domicile au match aller, alors qu'il menait 3-0. Ça, c'est quelque chose que j'en reviendrai jamais.
Ouais,
match retour, il menait aussi, puis ça s'est rendu en prolongation.
Deux buts à Montréal, ça fait tellement mal.
Ça fait de mal, en tout cas. Mais c'est quelque chose que moi, je revivrais bien. Puis écoute,
ben oui.
On avait Montréal avait tellement une belle équipe cette année-là en plus. Oh my god.
Ouais. Cette formule-là pour le spectacle, pour les partisans. Même pour les joueurs, je pense que c'est mieux. Là. Fait que, ben, peut-être pas pour les joueurs parce qu'il y a du voyagement, là. Mais clairement pour le spectacle, c'est la meilleure formule. Tom, ouais. T'es-tu.
Ouais, voilà. On reviendra
plus tard là-dessus.
Ok, bon, mais Tom est encore là-dessus. Fait que, on va en parlant du CIF.
Ah, c'est ça, c'est le match de barrage en 2015 contre Toronto.
Match de barrage, ok. C'est ça, c'est
un. Ils ont gagné?
C'était pour accéder aussi.
Ouais, ouais, victoire de 3-0. But de Bernier.
Ouais, but de Bernier, Drogba, Piatti. Les trois avaient marqué.
Ouais.
C'était.
Ils ont perdu contre qui?
On jouait contre Toronto en barrage, puis après ça, on a joué contre le Cruz, tu sais.
Ouais, perdu 4-3 au total des buts contre le Cruz.
Le Cruz Columbus de Kay Camara.
Exactement.
Il avait marqué Jordan. deux ou trois buts. Là. Ouais, ouais c'est vrai, le frère de Gonzalo.
Le frère de Gonzalo. À cause de lui, Messi n'a fait une parole de Coupe du Monde, mais ça, on en viendra plus tard.
Ça fait remonter de bons et de mauvais souvenirs, tout ça. Bref, parlant de CF Montréal, on va parler d'une finale qu'on a jouée mercredi, donc il y a deux jours au moment d'enregistrer ceci. Finale perdue, finale du championnat canadien perdue par le CF Montréal aux mains des Whitecaps de Vancouver. Puis honnêtement, même si ça finit 2-1, ça finit un match très serré et on a failli égaliser le tout pour amener ça en prolongation là, à deux reprises. Là, il y a eu deux excellents arrêts du gardien des Whitecaps. Vancouver a mieux joué que le CF Montréal sur l'ensemble de la rencontre. Ça, c'était évident pour moi. Et si ce n'était pas de Jonathan Sirois qui a été fabuleux, là. C'est incroyable les arrêts qu'il a fait, honnêtement. C'était 6 arrêts, 6 tirs cadrés des Whitecaps en première demi seulement. Et Vancouver s'empare de la Coupe. C'est encore ça le nom de la Coupe des Voyageurs. Et d'une place en Ligue des champions de la CONCACAF pour l'an prochain. Mm-hmm. Et voilà, c'est terminé pour le CF Montréal. Il n'y aura pas de Ligue des champions l'an prochain. Vos impressions sur ce match-là, Tom?
Premièrement, c'est pas encore fait du côté de la Ligue des champions parce qu'il...
C'est vrai, il y a une autre façon de...
Il y a des nouvelles places disponibles. Puis il y a aussi le tournoi contre... le tournoi MLS, Liga MX. La Ligue Cup qui peut donner des places, si je me trompe.
T'as raison.
Donc, écoute...
C'est pas terminé, c'est vrai. Mais la place qu'on aurait pu avoir en étant la meilleure équipe du Canada, elle n'est plus accessible, c'est Vancouver qui l'a. Vas-y, Tom, sur ton opinion sur
Oui, effectivement. Défaite de crève-cœur du CF. CF a manqué des chances en fin de match. Mais c'est ça, écoute. Une défaite qui fait mal, mais CF peut quand même être fier de la performance en championnat canadien au total. Le cousin de Doualé, qui a d'ailleurs égalé ou battu le record d'équipe pour le plus de nombre de buts en championnat canadien. Mm-hmm. Donc, chapeau à lui.
Excellent depuis deux semaines.
Oui, Ibrahim, très très fort. D'ailleurs, contre DC United, on va revenir là-dessus, mais quelle remontée orchestrée par Ibrahim, d'ailleurs.
Ibrahim est le meilleur marqueur de la compétition. Là. En championnat canadien, c'est le meilleur buteur. Trois buts, je pense. Fait que, c'est ça.
Ah, même plus! Non?
Non, mais cette année, cette année, je pense. C'est
okay, juste dans cette année, ouais.
Mais ça, la victoire contre Toronto, la victoire contre Forge, passé proche de battre Vancouver en finale. Je pense que c'est une bonne assise, un bon stepping stone un peu pour le reste de la saison à MLS, alors que tu as l'air de se battre pour une place en série. Je pense que ça va donner du boost au CF pour le reste de la saison.
Ben écoute, faut le mentionner, mais Jonathan Sirois, c'était phénoménal son match. Surtout la première mi-temps, là, des parades par-dessus parades par-dessus parades, puis malheureusement, alors qu'il y a presque une première mi-temps parfaite, quand même bévue où il décide de kicker le ballon, puis malheureusement, il passe à côté du ballon, puis puis malheureusement pour Sirois, ça a profité aux joueurs du Whitecaps pour marquer dans une cage béante. Puis par la suite, un penalty, Sirois, il pouvait rien faire sur le penalty qui était parfaitement tiré. Donc, encore une fois, un match phénoménal de Jonathan Sirois. Puis écoute, on l'a vu en tout cas en MLS quand il joue pas, puis que c'était Pantémis qui était dans les buts, comment ça a été affreux pour le CF.
Antémis, je ne dois pas revenir au poste numéro 1. C'est simple.
C'est pas compliqué. Là. Jonathan Sirois est officiellement le gardien but numéro 1 de cette équipe-là. C'est pas compliqué. C'est peut-être même le meilleur gardien but qu'on a eu depuis Evan Bush à Montréal. Je suis prêt à dire ça. Là. Il est extraordinaire. Vraiment, il est extraordinaire. Puis il a seulement 22 ans. Donc, on va voir ce qui va se passer pour lui plus tard. Mais bonne performance à part. Puis, pas CF, malheureusement, malgré la réduction du score par Sounassi Ibrahim, qui, il faut le mentionner, n'est pas mon cousin, OK? Il n'est pas mon cousin, mais on a juste le même nom de famille, donc c'est quand même assez drôle. Mais quand même, malgré sa réduction du score, c'était trop peu trop tard pour le CF. Puis malheureusement pour eux, malgré un beau parcours, doit s'incliner en finale. Puis écoute, comme Tom l'a mentionné, il reste encore des options possibles pour eux pour se rendre en Ligue des Champions de la CONCACAF, mais on verra qu'est-ce qui va se passer, mais pour l'instant, ce ne sera pas par le championnat canadien.
Exactement, puis c'est décevant pour le CF et Hernan Losada. On avait reposé énormément de joueurs pour cette rencontre-là. Camacho, Wanyama, Chouanier, Sirois, on les avait, et d'autres, là, on les avait tous reposés pour qu'ils soient frais et dispo pour la finale. Ça n'a pas porté fruit. Honnêtement, on n'a pas été dans le coup jusqu'à tard dans le match là, du côté du CF. Avant les 10 dernières minutes, on s'est procuré peut-être une seule occasion. C'était Vancouver qui dominait la charge. Vancouver aurait pu prendre les devants 3-4-0 même au lieu de 2. Et grâce à Sirois, des arrêts réflexes, je le répète encore, mais extraordinaire. C'est ça. Il y a un choix quand même surprenant pour ma part du côté de Losada. On alterne les numéros 10 depuis le début de la saison. On a vu Sean Rhea, on a vu Bryce Duke, on a vu... Bryce Duke, Sean Rhea, Matko Miljevic qu'on a vu récemment. Et là, on a ici Ahmed Hamdi qui avait joué, je pense, contre Philadelphie en numéro 10. Avait quand même bien joué, je trouve, contre Philadelphie, mais ne s'est tout simplement pas illustré dans le dernier match. Il est sorti là, à un moment donné, au cours de la rencontre. C'est quoi votre opinion par rapport à cette position-là du côté du CF Montréal? J'ai l'impression qu'on cherche le bon joueur pour jouer à ce poste-là depuis le début de la saison, puis on le trouve pas vraiment. Bryce Duke a eu des bons moments, mais a eu des moins bons moments aussi. Même chose pour Rhea. Miljevic n'a rien à faire de bon jusqu'à maintenant. Hamdi, je sais pas quoi penser de ce gars-là, surtout de la déception depuis qu'il est à Montréal. Fait, allez-y avec vos opinions.
Écoute, c'est pas compliqué, mais CF... doit chercher un nouveau milieu par le mercato ou surtout par le transfert ou mettons un échange avec une autre équipe de la MLS parce qu'en ce moment, ils se cherchent puis ils cherchent quelqu'un pour pallier ce trou-là. Puis en ce moment, on voit que du côté de CF, ça joue à la chaise musicale. Donc, qui va être là? Est-ce que ça va être Sean Rhea? Est-ce que ça va être Miljevic, comme tu l'as mentionné? Est-ce que c'est Bryce Duke? On pensait tous qu'il allait être... la solution, malgré qu'il ait eu des bons débuts. Mais là,
il était
bon début, mais là, c'est un peu plus difficile pour lui. Puis c'est normal aussi. En même temps, tu ne peux pas avoir que des bons moments depuis son arrivée au CF. Il y a quand même un moment d'adaptation qu'il a besoin dans son jeu. Puis l'autre, je ne vais pas le mentionner, mais il n'a pas été mauvais dans le match contre l'Union, mais c'est loin d'être la solution. Je pense plus que ça a été une audition pour lui. Vu qu'il y a eu plusieurs joueurs qui étaient laissés de côté pour cette rencontre-là. Donc, on verra ce qui se passe.
Mais pourquoi l'avoir remis titulaire dans la finale, dans ce cas-là, si c'était juste une audition contre Philadelphie?
Ben, peut-être que, je sais pas, c'est la bonne question. Écoute, malheureusement, je ne suis pas Hernan Losada, donc...
Il a bien joué contre Philadelphie, même si on a perdu quoi,
3-0? 3-0, oui.
C'était un match... Mais c'est vrai que les moments que j'ai vus de ce match-là, il crée quand même des choses intéressantes offensivement, même si ça amenait à aucun but. Mais c'est vrai que on avait manqué beaucoup de chance contre Philadelphie. Lapalainen, entre autres, on le salue, Lassie, qui m'avait manqué une, c'est pas deux occasions. Bref, mais est-ce que ça valait vraiment la peine de, à cause d'un beau match, j'ai dit, le mettre titulaire en finale de championnat canadien? J'aurais préféré un Duke ou un Rhea, personnellement. Puis en plus, samedi n'a pas donné de résultats. Fait que, bref. Ouais. Tom, ajouter quelque chose là-dessus?
Non, écoute, je pense que vous avez bien résumé ça, les boys. Beau travail.
Merci, Tom.
All right, ben merci beaucoup. CF Montréal, donc, ça fait le tour pas mal. Plusieurs matchs, MLS à suivre.
Prochain match qui a eu samedi. Prochain match qui a eu samedi contre Minnesota.
Exactement.
Le club école qui sera présent également à ce match.
Ah oui, qui sera dépêché au...
Louis Petitjean.
Oui, Petitjean, merci à Louis encore, on le salue. S'il veut venir faire un tour à Joseph Bonnaron en année,
Il est bienvenu.
Exactement. Puis, ouais, voilà, calendrier très chargé du CF Montréal depuis le début du mois de mai. Depuis le début du mois de mai, ils jouent deux matchs par semaine, le CF. C'est beaucoup, beaucoup de soccer, là, sachant que les joueurs courent plusieurs kilomètres par match. C'est assez demandant. Et Hernán Losada fait beaucoup tourner, ce qui est quand même un point positif, je trouve, c'est ça, dans ces matchs-ci. Après la mi-juin, je pense que ça devrait se calmer du côté calendrier pour le CF Montréal, mais c'est encore une grosse passe. Là, puis malheureusement, le point central de ce calendrier-là, de ce calendrier achalandé, c'était la finale. C'était un échec, malheureusement. Mais voilà. Passons donc à retournons à l'Europe ou allons du côté de l'Europe avec, par où vous voulez. Il y a plusieurs rumeurs de transfert, mais on s'est dit qu'on ferait un autre épisode plus quand on aura plus de nouvelles sur les transferts, donc dans un autre épisode. Mais il y a Karim Benzema, entre autres, qui quitte pour l'Arabie Saoudite, donc qui quitte le Real Madrid après 14 ans au Real et choisit l'argent, lui, contrairement à Lionel Messi. Avec un salaire de 200 millions et peut-être plus par année, offert par Al Ittihad, donc en Arabie Saoudite. Al Ittihad, c'est eux qui ont gagné le titre devant le Al Nassr de Ronaldo cette année. Et ce n'est pas tout, il y a N'Golo Kanté qui a été approché par Al Ittihad, a été approché par Al Nassr et Al Hilal aussi, je crois. Donc plusieurs clubs d'Arabie Saoudite. On voit des rumeurs sur plusieurs joueurs. Je pense à Son Heung-min, je pense à Angel Di Maria.
Mahrez aussi.
Mahrez. Donc, Hazard. L'Arabie Saoudite devient, en tout cas, à partir de cette saison-ci, vraiment un gros joueur au niveau mercato et transfert. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez aussi Benzema là-dedans dans tout ça? On peut commencer par d'où?
Écoute, pour Benzema, je comprends sa décision à 100%. Les gars, je sais que ça fait mal pour les partisans européens, de football européen, de voir Karim Benzema partir et de voir d'autres joueurs, mais c'est des joueurs qui sont âgés, qui sont past leur prime. Comme, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est des joueurs à fin de carrière. Puis,
ouais, mais attends un peu. Benzema a quand même remporté un ballon d'or l'an dernier. A quand même
année. Mais son jeu commençait à régresser tranquillement du côté de... Ouais. En tout cas, du Real Madrid, il y a eu des blessures, il a raté une Coupe du Monde qui l'a frustré. Par la suite, il y a eu des moments où c'était plus difficile, surtout en raison de blessures à répétition. Puis, en plus de ça, on l'a vu en Ligue des Champions, Benzema, quand il faisait plus de différence vers la fin. Donc, est-ce que, après ça, tu étais comme, est-ce que tu restes une dernière saison au Real Madrid, puis tu vas au moins bien aller, puis tu vas comme avoir peut-être une saison en deçà du talent de Karim? Ou tu décides d'aller, écoute, t'as quand même, franchement, les gars, là, t'as un club d'Arabie Saoudite qui arrive, puis t'as 35 ans, presque 36 ans, là, t'es en fin de carrière, là. Puis là, il te dit, ouais, je t'offre 200 millions de dollars par saison pour jouer 2 ans en Arabie Saoudite. Moi, c'est sûr que j'accepte. Là. Si j'étais quand même, ben, c'est sûr, c'est sûr, à 1000%, là, c'est 200 millions de dollars, là, quand même. Fait qu'on peut pas vraiment lui en vouloir là-dessus. Puis en même temps, ben, dis-moi, qu'est-ce qu'il a prouvé? Il n'y a plus rien à prouver en Europe, il a tout gagné. Il a tout gagné.
C'est la même chose. C'est juste que moi, je pense qu'il aurait clairement pu rester un an de plus au Real. Je pense pas que ça aurait été... son jeu a régressé. Ça reste quand même le deuxième meilleur buteur de la Liga cette année, derrière un certain Robert Lewandowski, ce qui est vraiment pas rien. Ça reste qu'il a marqué quand même. Il a eu son apport en Ligue des Champions, même si c'était pas autant que l'an dernier. Il a gagné un ballon d'or, pas il y a 4 ans, 5 ans, l'an passé. Clairement, il aurait pu rester au Real s'il voulait. Puis s'il voulait absolument partir, bien, c'est sûr qu'il y avait des meilleures options que l'Arabie Saoudite avant. Qu'il y avait des meilleures options que l'Arabie, c'est ça, que ce soit en Europe. Je ne sais pas si la MLS est impliquée. Bref, l'Arabie Saoudite n'est même pas dans le top 40 des meilleures ligues au monde. Là, si tout le monde s'en va en Arabie Saoudite, ça va peut-être changer. Mais pour le moment, je pense que Benzema avait encore la possibilité de jouer dans un bien meilleur championnat que l'Arabie Saoudite ou même de rester au Real. Ça aurait été, je pense, la meilleure option pour moi. Puis, il a le droit il accepte énormément d'argent. Il a absolument le droit, puis je comprends tout à fait sa décision. C'est juste que, comme le Ronaldo le fait, il a choisi l'argent, puis ça se défend. C'est correct, mais ça reste qu'il a choisi l'argent. Puis, il a le droit. Ouais. C'est juste, il le fait, il n'aurait pu pas le faire. C'est mon opinion là-dessus.
Ouais, ben écoute, Ali, j'abonde dans le même sens que toi. Je pense que Benzema, je m'attendais à ce qu'il re-signe au Real, ou du moins, il reste en Europe.
Moi, je m'attendais à une autre année au Real.
Ouais, c'est au lieu de partir en Arabie en même temps. Si tu reçois 250 millions annuellement pour aller jouer en Arabie, puis que tu n'as pas tant, tu n'as plus rien à prouver du côté en Europe, du moins. Honnêtement, je vois pas comment tu peux dire non.
Ouais, en effet.
Écoute, s'il peut jouer contre Ronaldo, un petit peu une petite réunion des deux, écoute, c'est.
Ouais, ça va être plaisant. Ça va être un match dont je vais aller voir les faits saillants certainement quand Al-Ittihad va jouer contre Al-Nassr. Mm-hmm. Ça reste.
D'ailleurs, Al-Ittihad qui est entraîné par Nuno. Ancien entraîneur
oui,
de Wolves et
Wolves, c'est Spurs. Oui, donc, effectivement. Écoute, les Spurs, pas très longtemps, par contre.
Ouais, ça a été un genre 3 mois avant que Mourinho arrive.
Ouais.
Mais c'était-tu Mourinho ou Kanté? En tout cas, un des deux.
On parlait. Oui.
Qu'est-ce que tu dis? Mais ce championnat commence tranquillement à se construire. Je pense que c'est Doux qui en parlait. Cette semaine dans notre conversation de groupe, ben, ça ressemble beaucoup à la Chine il y a quelques années quand tirait des gros joueurs comme Oscar, Hulk, ce qu'elle avait dit, là j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Ben,
c'est il y a les Carrasco, il y en a plein, là. Carrasco, la liste est longue, il y a les Ramirez. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient jeunes. Puis que, c'est ça la différence, je trouvais que la situation de la Chine, je trouvais que c'était pire pour les joueurs européens parce que c'était des joueurs qui étaient encore dans la fleur de l'âge et qui ont vraiment littéralement décidé de prendre l'argent à ce moment-là pour, au lieu de jouer,
vrai,
de continuer la carrière.
Mais est-ce que vous pensez que...
Qu'est-ce qui est un peu moins le cas des joueurs qu'on mentionnait, les Benzema, c'est à 35, presque 36 ans, Ronaldo, c'est à 38 ans.
Ouais.
Ronaldo, la majorité des joueurs à leur âge, là, ça ne joue même plus au football, la majorité.
Oui, c'est ça.
N'Golo Kanté, ça va être intéressant de voir parce que lui, N'Golo Kanté est un peu plus jeune que Benzema et Ronaldo.
Ouais,
donc,
il a quoi, 30 ans, Kanté?
Mais tu sais, beaucoup de blessures. Donc. Mais tu sais, c'est souvent des joueurs qui ont déjà tout prouvé en Europe et qui n'ont plus rien d'autre à prouver. Et pour Ronaldo aussi, Ronaldo, on l'oublie souvent, mais c'est parce que c'était probablement plus parce qu'il n'y avait plus de joueurs, il n'y avait plus d'équipe européenne qui voulait de lui. Là. Malheureusement, c'était ça dans son cas.
Oui, selon son salaire, effectivement.
C'est ça,
il y a ça du côté de Ronaldo.
Mais pensez-vous que les jeunes pourraient être intéressés dans un futur rapproché à aller en Arabie?
Ben, s'ils sont bien payés, certainement. Certainement, s'ils sont bien payés, je pense que oui. Puis l'Arabie Saoudite a de l'argent, ça c'est sûr et certain. Là, je pense que c'est... sont financés par le fonds d'investissement, je ne sais pas quoi, mais je crois que ça appartient au prince saoudien. Bref, ils ont énormément d'argent, l'Arabie saoudite, fait que ça n'est pas un problème pour attirer qui que ce soit. Puis moi, je pense très bien que si, tu sais, Son, là, il n'a même pas encore 30 ans, Son, peut-être qu'il a 30-31, lui aussi, il pourrait faire le saut en Arabie saoudite. Ça va être, pour ces joueurs-là qui vont se faire approcher, ça va être le dilemme. Argent ou compétition. Là, tu veux jouer dans un championnat plus compétitif ou tu veux gagner plus d'argent? C'est ça que ça va être ça le dilemme, je crois. Ouais. Fait que voilà. Puis bon, pendant qu'on est sur les départs, Benzema qui quitte l'Europe, Messi qui quitte l'Europe, il y a quelqu'un qui a quitté le soccer, ou en fait, c'est le soccer
qui
l'a quitté. Bref, vous savez de qui je parle. Zlatan Ibrahimovic a pris sa retraite, messieurs. À 41 ans, après avoir remporté le championnat de France, d'Italie, d'Espagne, la Ligue Europa, le championnat néerlandais, après avoir marqué 53 buts en 58 matchs avec les LA Galaxy, après être retourné au AC Milan à 39 ans, avoir marqué quand même plusieurs buts avec eux, avoir remporté un autre titre d'Italie avec Milan l'an dernier, Zlatan Ibrahimovic prend sa retraite. Puis moi, je vais le dire, ça, je pense que c'est. Si c'est pas mon joueur préféré que j'ai vu jouer, c'est un de mes préférés dans mon top 3, certainement.
Ouais.
Puis c'est un de ceux qui m'a fait le plus aimer ce sport-là, de par son personnage, ses citations phénoménales, très drôles, son arrogance qui me fait rire, et aussi le joueur qu'il est sur le terrain. Les buts qu'il a fait, les bangers qu'il a fait, ses retournées acrobatiques, c'est son physique mêlé avec de la technique. Zlatan Ibrahimovic était
fou. En 2011, pendant les qualifs de l'Euro.
Ouais, ça, mais même ça, genre, il était, même s'il était acrobatique, il était capable d'être très technique au sol aussi, en contrôle.
Oui, aussi, oui.
Son but contre l'Ajax, là, avec l'Ajax à ses tout débuts, c'était un joueur exceptionnel et une personne exceptionnelle, une personnalité exceptionnelle aussi. Fait que c'est, tout ça m'a fait tomber en amour avec lui et le personnage qu'il est. Je vais vous laisser faire votre hommage aussi, là, d'où tu veux commencer. Là.
Ben écoute, Zlatan Ibrahimovic, c'est un joueur qui... un nom de famille qui ressemble drôlement au mien, c'est le même début, donc déjà là, je peux m'identifier un peu là-dessus. Mais non, mais pour vrai, tu l'as mentionné, pour un gars de son gabarit, c'est un gars qui est quand même 1m95 à 6'5. Donc, de voir un gars autant technique à son âge, une agilité aussi. Puis, écoute, ses nombreux buts spectaculaires s'expliquent surtout par le fait qu'il est ceinture noire de taekwondo. Donc, ça l'aide beaucoup pour... ça l'a beaucoup aidé pour ses bicyclettes ou ses buts un peu avec des prises qui ressemblent à celles au taekwondo. Donc, ça explique vraiment son acrobatie absolument incroyable. C'est un joueur qui a marqué, comme Elie a mentionné, non seulement les esprits, mais aussi sur le terrain. Il a marqué plus de 500 buts dans sa carrière. Puis, c'est un joueur qui, peu importe d'où il allait ou presque, laissait sa marque. Puis, moi, à sa fin, comme j'ai mentionné, que c'était assez dommage, c'est le fait que tu n'as pas de Ligue des Champions. T'as pas de ballon d'or. T'as même pas de top 5 de ballon d'or.
Ouais, il y a un top 5 de ballon d'or.
Il y a un top 5. Ouais, je pense que c'est 2013.
2014. Il y en a un, je pense.
Il y a un top 5 de sa carrière. Quoi d'autre? Oui, l'autre fait
important. Il y a un top 5 et trois top 10, je pense.
Un top 5, trois top 10. L'autre affaire aussi qui était.
C'est quand même reconnaissable.
Ouais, malheureusement, il est suédois aussi. Donc, il ne veut pas faire grand-chose en équipe nationale. Malgré que, qu'est-ce qui est assez triste dans son cas encore plus, c'est que. L'équipe nationale la Suède a eu plus de succès quand elle est partie. Puis après ça, son retour, c'était plus difficile. Donc, c'est assez difficile. Je pense que c'est difficile pour la Suède d'avoir Zlatan dans ses rangs. Mais c'est ça. Vraiment, ce qui est dommage, c'est le fait qu'il n'a pas remporté des champions et qu'il n'a jamais fait une finale non plus. Moi, écoute, je vous dis, Zlatan c'est un grand bonhomme. Puis au niveau de l'athlète, si on retire un peu l'extra-sportif, là, t'es le côté un peu arrogance, folle. T'es, à part de ça, je trouve que ça se compare drôlement à la carrière de Chris Paul dans la NBA, où que les deux sont considérés parmi les plus grands à leur position, mais que malheureusement, dû au fait qu'ils n'ont pas rapporté assez de titres, qu'ils ne se sont pas rendus jusqu'au bout, ben, ça vient un peu de tâcher leur carrière, mais ça reste que c'est deux légendes de leur sport. Donc, Zlatan reste une légende de son sport, puis ça va être dommage, ça va être triste pour lui parce que je trouve que, les gens en parlent très peu, là, mais le projet Paris Saint-Germain, là, c'est lui qui c'est parti de lui. Là. C'est lui qui a ramené les yeux sur
la première, la première grosse signature des Qataris. Hein.
C'est ça, ça a ramené les yeux de la planète football en France. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de regard en France, surtout depuis, je dirais même depuis leur titre. De la Ligue des Champions avec Marseille en 93. Donc, ça. Fait que c'était assez fou de voir ça. Puis, Zlatan était absolument phénoménal au Paris Saint-Germain. Il avait été phénoménal aussi dans son premier passage à la Milan où il dominait. Puis, à Manchester United aussi, il n'est pas resté longtemps, mais juste à sa saison 2016-2017 avec Mourinho, il était.
Il a été marquant là, à United avant sa blessure.
C'est ça. Puis, il était venu gratuitement à Manchester United. Donc, ça a été une signature qui était excellente de Zlatan Ibrahimovic, mais malheureusement, c'est sa blessure. Il s'est déchiré le ligament croisé, je pense. C'était-tu en finale de l'Europa League ou peu de temps avant la finale de l'Europa League? Il me semble que c'est ma mémoire, ça m'échappe, là, mais bref.
Il n'avait pas joué la finale de l'Europa League?
Non, il n'a pas joué la finale de l'Europa League. Ça, je me rappelle, il avait son plan.
Non, c'est vrai, il a été blessé avant. Non, c'était en PL, je pense, qu'il a joué.
Moi, c'est quelque chose
d'avant. Qui a été blessé.
Moi, c'est donc grand joueur. Grand personnage, puis écoute, il a marqué de nombreux amateurs, y compris moi. Donc, écoute, on dit adieu à Zlatan à 41 ans, mais déjà qu'il se rend jusqu'à 41 ans, c'est quand même assez fou. Puis il a quand même deux blessures graves. Donc, écoute, chapeau à Zlatan, hein. C'est toute une carrière pareil pour un joueur qui a eu beaucoup de détracteurs contre lui. Donc, regarde, bravo.
Ouais. Fantastique.
Ouais,
D'accord
avec ce que vous avez dit. Un grand joueur, une encore plus grande personnalité qu'on va se rappeler pour que les amateurs de soccer, en fait, vont se rappeler pour le restant de leur vie. Puis honnêtement, qui a marqué autant la MLS que l'Europe. Puis écoutez, comme vous l'avez dit, il ne sera peut-être pas dans la discussion pour les meilleurs de tous les temps, mais définitivement, un de ces genres de joueurs que nos enfants et nos petits-enfants vont dire que c'est un joueur Streets Won't Forget, un joueur mythique, un joueur culte, qui vraiment marque des buts d'anthologie et avec un franc-parler incroyable. Et sur ce, messieurs, c'est pas que je ne l'aime pas, mais il faut vraiment que j'y aille. Donc, je souhaite une bonne fin d'épisode. Et rapidement, ma prédiction pour la Ligue des Champions. Je souhaite une victoire de l'Inter, 1-0, mais ça risque plus d'être une victoire assez convaincante de City, 3-0 ou
3-1. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Mais ouais, bon film, Tom. Je sais que tu vas au cinéma. Puis merci pour le temps que tu as alloué à cet épisode.
Ben, yes. Écoute, ça fait plaisir. Puis on se reparle. Une prochaine fois.
Yes, salut.
Ciao, Tom.
Ciao. Fait que d'où, on revient sur Zlatan, Tom en parlait, les buts d'anthologie, aussi les statistiques d'anthologie. Zlatan a marqué à chaque minute d'un match de soccer. Donc, que ce soit de la première à la 90e minute, il a marqué à chaque minute dans sa carrière. Autre statistique absolument folle, il a marqué un but dans chaque année civile depuis 1999. Ça veut dire qu'en carrière professionnelle, il a marqué à Malmo en 99, puis il a marqué à l'AC Milan en 2023. Toutes les années entre les deux, il a marqué au moins un but. Donc, avec les blessures, avec la COVID, tout ce qu'il peut avoir eu comme obstacle, il a toujours réussi à marquer au moins un but par année civile. Ça aussi, c'est toute une statistique qui montre sa constance, sa longévité de feu. Qui est un grand point, là, un grand élément là, dans le succès de Zlatan, c'est sa longévité, sa constance. Écoutez, 99 à 2023, pendant 24 ans, il a été dans un bon calibre là, dans du soccer européen ou américain MLS, où il a tout ravagé aussi avec les Galaxies. Ce qui m'amène à la question suivante, d'où dans les attaquants de pointe au 21e siècle, où est-ce que Zlatan se situe pour toi? T'sais, on parle de Suarez, de Lewandowski, de même Eto'o qu'on peut inclure dans le 21e siècle.
Ben là, Tamorette, il se retrouve.
Ben, est-ce qu'on inclut Eto'o dans le
21e siècle? Non, parce que si on parle du 21e siècle, pour moi, il n'est pas top 10. Pour moi, il n'est pas top 10. Parce que ça veut dire qu'on parle de R9, on parle de
Eto'o. Non, on parle pas de.
On parle de.
Si on parle de 2010 et plus, disons. 2010 et plus.
Si on parle de son époque, il est top 5 pour moi. Pour moi, il est top 5. Mais pour moi. Pour moi, je pense que je mets juste Suarez, Benzema et Lewandowski en avant de lui. Je pense que ces trois-là étaient juste des marqueurs juste plus naturels. Puis leur jeu était pour moi plus dominant. Puis ils ont été surtout décisifs à des moments cruciaux. Qu'est-ce qui me manquait un peu pour Zlatan Ibrahimovic, je trouvais, dans sa carrière? Au Paris Saint-Germain, il a raté des bonnes occasions de pouvoir amener ce PSG-là jusqu'au bout. Moi, je me rappelle toujours Ligue des Champions 2016.
Contre Manchester City,
il avait une équipe beaucoup moins forte que celle du Paris Saint-Germain, puis Zlatan rate des pénaltys, rate des occasions, et t'as absent au match retour aussi, donc c'était comme assez compliqué. 2015 aussi, où il a fait écouter la défaite au Paris Saint-Germain contre Chelsea, où en tout cas il était revenu de manière extraordinaire avec Thiago Silva et David Luiz qui marque 2-8 de la tête sur Thibaut Courtois.
C'était fou. Zlatan avait marqué dans ce match-là.
Me semble, non. En 2016, parce qu'ils sont affrontés deux fois à Chelsea puis le PSG. En 2016,
mais là, tu parles qu'ils sont revenus de l'arrière. Zlatan, 2015. Est-ce qu'il faisait partie
Non, Zlatan s'était fait mettre. C'est ça. Zlatan s'était fait mettre dehors avec un carton rouge automatique.
Voilà.
Match retour. C'était ça qui était assez fou. Donc, pour cette raison-là, moi, je pense que je le mets quatrième. Je persiste quand même à croire que Luis Suarez est le meilleur attaquant. Des années 2010. Pour moi, je m'excuse. Mais quand tu finis en avant des Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans ton prime, pour moi, il n'y a personne qui.
Pour la course au Pichichi, tu parles?
Pour Pichichi, pour moi, là, c'est un no-brainer, Suarez premier. Par la suite, c'est très serré entre Benzema et Lewandowski. Ça dépend. Honnêtement, je trouve que ça devient subjectif. Pour moi, c'est Benzema que je mets numéro 2, Lewandowski 3, parce que ouais, Benzema juste
était plus c'est 3, là, ça, c'est très débattable qui est
c'est
premier.
C'est très débattable, honnêtement. C'est très débattable. Puis Benzema pourrait être numéro 1 dans la liste de quelqu'un juste parce que Ballon d'Or, tu
sais. Oui, Lewandowski pourrait l'être aussi. Lewandowski, tant que moi, aurait censé avoir 2 Ballons d'Or.
C'est ça, tu sais. On ne sait pas, tu sais. Puis Zlatan aussi peut être dans la liste, mais pour moi, Zlatan est en arrière de ses.
Puis tu as Aguero, tu as Harry Kane aussi.
Pour moi, ça, tu as Aguero et Harry Kane aussi qui sont en arrière aussi.
Harry Kane qui est loin d'avoir fini son prime. Là.
Non,
c'est ça. Harry Kane est à fond dans son prime, Harry Kane à 30 ans.
Exactement. Mais pour moi, Aguero viendrait rejoindre ce top 5-là. Je pense que Aguero est numéro 5.
Puis, pour le moment, Kane pourrait le dépasser tant qu'à moi.
Kane pourrait le dépasser. Mais dès 2010, je pense que c'est eux. Mais Kane va. Mais Kane, l'affaire, c'est qu'il gagne, il joue à Tottenham. Fait.
Ben, il va. J'espère tellement pour lui qu'il va finir par bouger. Là, Harry Kane, je sais que t'aimes Tottenham. Je comprends, puis j'admire ton appartenance pour ton équipe, ton sentiment d'appartenance. Mais là, Harry Kane, va-t'en de là. Écoute, c'est assez simple. Là.
Robin va passer le fait Arsenal.
On finit 8e cette année. Nous jouerons ni l'Europa, ni la conférence, ni la Ligue des Champions. En fait, peut-être qu'ils peuvent se qualifier pour la conférence, là, mais. Même à ça, Harry Kane, t'es un striker de classe mondiale, de l'élite. Est-ce que tu veux vraiment te contenter de la conférence ou de juste la Premier League sans rien d'autre? Come on, man. Il y a le Real Madrid, là. Il y a le Real Madrid. Tu peux aller au Real. Il n'y a personne au poste de striker. Harry Kane doit se ressaisir sa chance, honnêtement, tant qu'à moi. Ouais. Mais c'est un autre sujet.
Ouais,
ton classement, je suis assez d'accord. Pour moi, Suarez, je le mettrais aussi premier. Je pense que je mettrais Lewandowski deuxième, Benzema Zlatan. Ça, c'est pour qui tu prends dans son prime, qui a été le plus clutch au meilleur moment. Ça, je suis très d'accord que ces trois-là sont devant Zlatan. Si tu veux un classement de la longévité, de la constance, je mets Zlatan premier. Honnêtement, pour l'ensemble de sa carrière.
Je sais pas. Moi,
je l'ai dit, là, 1999 à 2003. Il a été bon à partir de 2000 à 2001 avec l'Ajax. Il était déjà très bon. Il empilait les buts à chaque année. Mm-hmm. Puis même jusqu'à 2022, l'an passé, je pense qu'il y avait quoi, 15 buts, quelque chose comme ça avec AC Milan. C'est juste cette année que les blessures l'ont limité à un seul but, puis je pense 4 matchs. Mais jusqu'à 2022, il marquait régulièrement en championnat de Zlatan. Donc, pour moi, là, il n'y a personne qui a fait ça. Suarez, à 35 ans, est parti en Uruguay. Benzema, à 35 ans, part en Arabie Saoudite. Lewandowski, je sais. Lewandowski pourrait peut-être en longévité, même si Lewandowski, ça a été plus dur au début. Fait que pour moi, Zlatan, niveau constance, longévité, clairement, est premier.
Pour statistique, oui, mais ça reste qu'il n'a jamais fini Pichichi, il n'a jamais gagné le Ballon d'Or, il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Le gars, tout le monde pourrait dire aussi qu'il n'a jamais remporté une première Ligue sans Manchester United. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Donc, t'sais, pour ces résultats, on parle de longévité, oui, c'est parce qu'il a joué plus longtemps parmi ces joueurs-là.
C'est justement une qualité d'avoir joué plus longtemps. Il a joué un plus longtemps, un plus haut niveau. C'est pas une excuse, c'est une qualité.
Ouais, c'est une qualité, certes. Mais tu dis ça, tu peux dire ça de LeBron James, par exemple. Tu vois, LeBron James, il peut dire, moi, j'ai fini joueur le plus utile de ma ligue, j'ai fini ci, ça, j'ai gagné ci, ça. Le problème, c'est que Zlatan, je te dis, moi, c'est la seule affaire que je dis à Zlatan. Zlatan, ça m'a été absolument incroyable. Moi, j'adore ce gars-là, mais. Je te dis, le fait qu'il n'ait pas gagné de Ligue des Champions, de Ballon d'Or, qu'il n'a même pas fait un top 3, ça, pour moi, ça vient un peu, tâcher genre toute sa.
Oui, mais c'est pour ça que je te dis que niveau prime, je prends Kane, Benzema et Lewandowski devant lui. Moi, même je te parle du classement. Pas Kane, excuse-moi. Benzema, Lewandowski et Suarez.
Ouais, Suarez. Okay.
Au niveau de la longévité et de la constance, seulement sur cet aspect-là, sur l'ensemble de la carrière, d'avoir été bon et performant, pas performant au même niveau que Benzema, Suarez et Lewandowski ont été capables de l'être. Juste d'être un bon striker pendant plusieurs années, il l'a été que ces trois joueurs-là. C'est seulement à ce niveau-là que je dis que sur l'ensemble d'une carrière de longévité et de constance, Zlatan est le meilleur de sa génération. Ça reste que il est un moins bon striker, je suis d'accord avec toi là-dessus, que Benzema, Suarez et Lewandowski.
Puis tu sais, Benzema c'est une anomalie comparée aux autres. Parce que moi, je trouve que Benzema,
un peu comme Suarez, dans l'ombre d'un Ronaldo.
Mais pas juste pour ça. Je trouve que je pense que c'était la même affaire, c'est pour Roberto Firmino. Puis même Suarez aussi, je pense qu'il est capable de faire ça. C'est que c'est pas juste des joueurs qui sont capables de marquer des buts. C'est des joueurs qui sont capables de créer du jeu. C'est des joueurs qui sont bons dans les espaces. C'est des joueurs qui, des excellents dribbleurs. C'est des joueurs, c'est des passeurs décisifs aussi. C'est des joueurs qui vont bien fonctionner.
Ils ont plusieurs volets à leur jeu. Mais...
C'est ouais. Ça, qui ont plusieurs, ouais, ça, plusieurs arcs dans leur
carrière. Corde à leur arc, exact.
Ouais, c'est corde à leur arc. Fait que merci de...
Ouais.
Je faisais un péronisme parce que c'est... Bref, mais vas-y.
Il n'y a pas de problème, ça fait rire. Mais oui, très bon point que tu apportes là, parce que Zlatan était moins. Zlatan était quand même capable de distribuer des passes.
Ouais, il était très bon, oui.
Avec, mais oui, il participait moins à la création du jeu qu'un Benzema ou un Suarez. Tout à fait. Bon, on a assez passé de temps sur Zlatan. Merci encore, Zlatan, pour tout ce que tu as fait au soccer. Yes. Je te salue. Et qui sait, on va sûrement le voir au cinéma. Probablement pas derrière un banc, parce qu'on a vu sa citation qu'il frapperait des joueurs s'il était coach. Mais peut-être au cinéma. On l'a vu dans Astérix et Obélix, entre autres. Donc, voilà, bonne continuité, Zlatan. Ensuite de ça, Europa League, Conference League. L'Europa League, ça fait déjà plus d'une semaine que ça a été joué. Et non, José Mourinho ne conserve pas sa fiche parfaite en finale européenne. Il perd contre Séville. Ben oui, Séville qui gagne encore une autre Ligue Europa au penalty. 2-1 ce match-là. La Roma menait. Et j'ai l'impression, j'ai pas bien regardé le match, j'ai pas vu au complet, mais j'ai l'impression qu'on a trop défendu. C'est Dybala qui a marqué. Ouais, Dybala a marqué. Ouais. À, j'ai marqué. Il a marqué. Il a marqué à la 35e minute, Dybala. Okay,
ouais.
Et puis à partir de ce moment-là, ou presque, on a trop défendu du côté de la Roma. On laissait Séville venir, puis Séville n'a pas le meilleur punch offensif. C'est pas. Roma a une meilleure équipe que moi, selon eux. Je trouve ça décevant qu'on se défende tellement, qu'on recule tellement, qu'on laisse Séville venir. L'égalisation a été écrite dans le ciel, Puis c'est un contre son camp, en plus, l'égalisation. Et voilà. Puis finalement, Séville qui gagne au pénalty. Les pénaltys, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Ça dépend souvent des gardiens. Rupatricio en a perdu, là, surtout au niveau des pénaltys. Fait que je pense que ça, contre un bout nous, là, du côté de Séville, les pénalties favorisaient clairement Séville. Puis voilà, je pense que beaucoup de personnes sur la planète soccer auraient aimé que Mourinho remporte cette finale. Ce n'est pas arrivé. Tes impressions sur le match?
Ben écoute, aussi, je ne sais pas si tu l'as vu, mais Mourinho était très fâché après l'arbitre Anthony Taylor. Il a vraiment été des décisions douteuses de sa part, puis je comprends un peu sa frustration, mais en même temps, c'est ça l'affaire, c'est je pense que Mourinho a joué avec ses capacités, je pense qu'il savait que son équipe était peut-être pas capable d'acheter le deuxième but, donc il s'est peut-être dit que c'était mieux de défendre, mais ça, c'est tellement une décision terrible souvent, là, c'est pas toutes les équipes qui peuvent se permettre de faire ça, on l'a vu, là, l'Angleterre a essayé de faire un geste similaire à la finale de l'Euro en 2020 contre l'Italie, ça n'a pas fonctionné.
Ils se sont rendus au pénalty.
Ils se sont rendus au pénalty, puis ils ont perdu au pénalty.
Ouais, effectivement. Puis l'Italie a remonté au 1-6, tu veux dire.
C'est ça, mais bref. Ouais. Mourinho l'a déjà fait dans le passé. Il l'a fait avec l'Inter Milan, que ça lui arrivait des fois de marquer un but ou deux, puis qu'après ça, il disait OK, on défend jusqu'à pour le reste de la rencontre. Mais c'est pas la même équipe, donc il a fait avec ce qu'il pouvait. Puis pour Séville, écoute, c'est une équipe qui est expérimentée dans cette compétition-là. Donc, c'est une équipe qui trouve tout un moyen. Écoute, ils sont horribles cette saison en Liga Séville. Je crois qu'ils étaient 12e, quelque chose comme ça. Donc, Séville a une saison catastrophique. Puis, a quand même trouvé le moyen de gagner l'Europa League. Puis, écoute, ils vont jouer en Ligue des Champions l'an prochain, malgré qu'ils ont fini 12e de leur championnat. Hein. C'est quand même assez.
C'est incroyable.
C'est quand même assez particulier de ça. Puis, écoute, les tirs au but, c'est ça qui est un peu triste, c'est que ça paraît d'un côté ou de l'autre. Puis, comme tu as mentionné, tu as Yacine Bounou du côté de Séville qui affronte un Rui Patricio qui, Rui Patricio, dans son apogée, était excellent comme gardien de but pour l'équipe
pour la sélection
Portugal. Ouais. Mais malheureusement, pour cette équipe-là de la S-ROM, ça a été très triste. Puis, écoute, regarde, c'est pas grave, ça s'est rendu très loin avec Mourinho, puis Mourinho reste que c'est quand même un excellent coach, reste un grand coach, puis écoute, moi je le dis, Mourinho devrait aller au Paris Saint-Germain, moi c'est ça que je pense. Je pense que si tu mets un José Mourinho au Paris Saint-Germain, ça viendrait tout redresser, ce serait bye Neymar, ça serait bye...
Neymar s'en va, c'est sûr.
Neymar.
Moi, je pense que Mourinho ou non, Neymar s'en va du PSG.
Ça va recadrer à Mbappé qui a besoin de cet encadrement-là. T'es en équipe de France, il a cet encadrement-là avec Didier Deschamps et son équipe où que oui, il est rendu capitaine, mais quand même, il ne peut pas se permettre de tout faire. Puis là, je pense que Mourinho serait parfait avec le Paris Saint-Germain, mais ça, c'est ce que je pense. Mais pour revenir à cette finale de l'Europa League, écoute, c'est une finale que l'AS Rome avait pourtant l'avantage, puis il y avait la possibilité de la gagner, puis malheureusement, ils l'ont échappé pour des décisions un peu douteuses de la part de Mourinho et aussi l'arbitrage qui n'était pas de leur côté. Donc, malheureusement, c'est ça, hein, c'est football.
Effectivement, pour ce qui est de la stratégie de défendre, je ne sais pas à quel point ça venait de Mourinho, si c'est juste que les joueurs qui l'ont exécuté plus qu'il le fallait. Mais j'ai jamais été un fan de ça. Je pense que quand tu mènes, surtout juste de 1 à 0, la meilleure défense, c'est de l'attaque. Fait, peut-être pas de presser autant que si tu étais en situation de défaite, mais faut pas abandonner le pressing, certainement. Reculer et tout, si tu es bon défensivement, ce n'est pas une bonne idée tant qu'à moi. Je suis vraiment pas un fan de ce système-là. Puis pour Mourinho, ben, tu as parlé du PSG. Je sais pas si j'aimerais le voir tellement. Le PSG me fait tellement... C'est je soupire là, quand je parle du PSG. C'est ça mon sentiment par rapport à eux. Fait que, est-ce que je veux que Mourinho aille là, un coach que j'admire et que j'aime beaucoup? Je sais pas. Mais voilà. Maintenant, Dou.
Yes.
L'Europa League, c'est check. Conférence League maintenant, ça jouait hier ou avant hier.
Ouais.
West Ham. West Ham contre la Fiorentina, donc deux équipes dont on parle rarement. Mais West Ham, qui est champion de Conférence League, la deuxième édition de la Conférence League l'an passé qui avait gagné, c'était la Roma de José Mourinho. Là, c'est West Ham. Et ce qui est très drôle avec West Ham, c'est que West Ham a gagné 11 matchs en Premier League cette année et en a gagné 12 en Conference League. On gagnait plus de matchs en Conference League qu'en Europa League cette saison, ce qui est très rigolo. Et voilà, donc victoire de 2-1 de West Ham. Benrahma et Bowen. Bowen a marqué le but gagnant à la 90e minute pour le West Ham. Voilà. Et donc, qui gagne contre Fiorentina. J'ai pas vraiment vu ce match-là. Quelques mots à dire.
Moi, bon, voilà, plus, hein. Je peux dire quelque chose, par contre. Écoute, pour David Moyes, moi, je trouve que c'est une belle chose qu'il gagne un trophée européen. Je trouve qu'il a beaucoup souffert au cours des années. Il a fait vraiment d'excellent travail dans plusieurs équipes. Je pense que c'est surtout son passage à Manchester United qui a un peu taché sa carrière d'entraîneur. Là, pour les gens à la maison, il faut se rappeler qu'en 2013, David Moyes avait été nommé comme entraîneur-chef de Manchester United, c'était lui qui était supposé succéder à Sir Alex Ferguson. Donc, il devait arriver du côté de Manchester United. Puis Manchester United venait de remporter la Première Ligue en 2013. En 2012, a perdu la Première Ligue contre City par un miracle absolument incroyable de la part des Citizens. En 2011, ils ont remporté la Première Ligue. Bref, c'est une équipe qui, avec Sir Alex Ferguson, c'est une équipe qui était toujours dans le top 2, voire top 3, où ils gagnaient la Première Ligue. Puis David Moyes, il fallait qu'il remplace. Par la suite, ils ont fini 8e, ça a mal été, il s'est fait renvoyer après un an. Ça a été très difficile pour David Moyes. Puis par la suite, il s'est retrouvé à Everton, il s'est retrouvé évidemment à West Ham, où ça a bien été, en tout cas en Conference League. Mais bref, c'est un excellent entraîneur, David Moyes. Puis écoute, chapeau pour lui qui a beaucoup souffert cette saison en Première Ligue avec West Ham, là, tu l'as mentionné.
Ouais.
Là,
ça n'a pas été une belle saison. Là. Ouais.
Non, vraiment pas. Puis écoute, on verra l'an prochain. Heureusement, ils ne sont pas relégués. Donc, déjà là, c'est bien. Là.
Okay, voilà. Exact. Et puis, tu parlais de David Moyes, mais aussi une autre histoire dans cette conquête de la Conference League pour West Ham, c'est Declan Rice, qui, en tant que capitaine, a soulevé l'Europa Conference League. Mais va quitter West Ham. Donc, est-ce que ce sera Arsenal? Est-ce que ce sera le Bayern Munich? J'ai vu que le Bayern était intéressé, mais Declan Rice semble être plus intéressé à rester en Angleterre. Donc ça va être à suivre de ce côté-là. Puis sinon, on a quand même un bon effectif du côté de West Ham. Le Michael Antonio, qui n'a pas la meilleure saison cette année, mais qui est un bon attaquant quand même. Jared Bowen, très clutch cette année. Benrahma, Declan Rice, entre autres. Fait que, bref, ça va être intéressant de voir la suite pour West Ham. Côté de la Fiorentina, Amrabat a dit qu'il quitterait la finale finale, lui qui aurait bien aimé soulever cette Europa Conference League. Où est-ce qu'Amrabat se retrouvera? C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé à la Coupe du Monde. Liverpool, on espère. On a déjà une certaine recrue, Liverpool, McAllister, pour 35 millions. On en parlera plus au prochain épisode. Mais voilà pour ce qui est de la Conference League. Maintenant, rapidement, d'où bilan des saisons dans le top 5. Bon, on peut passer l'Italie. On a déjà parlé amplement de
l'Angleterre. Peut passer
la Juventus, faut mentionner. Comment?
Alors, je disais aussi, on pouvait passer la première ligue aussi, vu qu'on savait déjà que c'était City qui a gagné.
Ouais, ben attends, il y a juste une chose que je veux parler en première ligue. Mais la Serie A, Naples, on peut passer. Juventus, on l'avait déjà dit, mais a perdu 10 points et est donc exclu des compétitions européennes. Donc, ce qui donne l'AC Milan revient en Ligue des Champions. En PL, on a parlé amplement de City Arsenal. Manchester City a gagné le titre, a gagné la FA Cup et donc pourrait accomplir le treble, comme on dit, avec une victoire en Ligue des Champions. Mais ce que je veux parler en PL, c'est Luton Town.
Ouais.
Luton Town, donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est quelques années en 5e division, je crois. Et qui, là, ont monté échelon par échelon et finalement sont en première ligue, doivent complètement améliorer leur stade parce que ça ne convient pas aux exigences de première ligue, tout simplement. Et l'effectif aussi, il va être amélioré, je pense, parce que ça. Bon, ils se sont quand même rendus en première ligue, mais surtout les installations qui vont être à refaire. Sinon, Bundesliga, on va revenir sur la Bundesliga parce que c'est la plus grosse histoire, là. Mais Ligue 1. On peut passer aussi, le PSG est champion. RC Lens, félicitations pour la saison. Liga, même chose. La FC Barcelone est champion. Madrid, les deux Madrid suivent. Voilà. Et bon, Busquets quitte pour Barcelone. Jordi Alba également. La vraie histoire là, qu'il faut qu'on parle, c'est la Bundesliga. Bon, je vais te laisser expliquer qu'est-ce qui s'est passé, d'où et ton opinion là-dessus.
OK, bon. Écoutez. Il y avait une course en Bundesliga entre les deux grosses équipes de l'Allemagne. Le Bayern Munich, qui est l'équipe qui a remporté chaque Bundesliga depuis 2013. Donc, c'est ça, ça fait 11 ans qu'ils gagnent la Première Ligue à chaque année. Puis, de l'autre côté, tu avais le Borussia Dortmund, qui est l'équipe qui finit tout le temps deuxième ou dauphin, ou des fois finit troisième, dépendamment de l'année. Puis, le Borussia Dortmund se retrouvait, je crois, Ali, avec combien de points en avance? 2-3 points en avance sur...
Oui, exactement. Le Borussia Dortmund avait 2 points d'avance sur le Bayern. Il devait absolument gagner pour s'assurer d'une place.
C'est ça.
Il jouait contre Mayence.
C'est ça. Il affrontait Mayence à domicile.
Oui.
Pour le dernier match de saison en Bundesliga et le Bayern de Munich avait joué juste avant, je pense que c'était la veille ou la journée même.
C'était en même temps qu'ils jouaient.
C'était la même journée, c'est ça. Et on considérait le match nul. Donc, le Borussia Dortmund, avec une victoire, pouvait officiellement remporter la Bundesliga pour la première fois depuis 2012. Donc, en passant, le Borussia Dortmund t'a donné l'équipe à avoir remporté la Bundesliga depuis la séquence de Bayern Munich. Et malheureusement pour le Dortmund, affronter Mayence à domicile et accorde 2 buts très tôt dans la rencontre, et perd 2-0 après seulement 24 minutes de jeu à domicile face à Mayence. Puis par la suite, on tentait de faire une remontée. Raphaël Guéraud marque à la 69e minute et Nicolas Soulet, pardon, qui marque à la 86e minute, mais ça fut trop peu trop tard et le Borussia Dortmund à domicile accorde le match nul à Mayence et se retrouve à égalité des points avec le Bayern de Munich à 71 de chaque côté, mais malheureusement le Bayern de Munich
termine en
avant du Borussia Dortmund et remporte la Bundesliga grâce au différentiel de but qui était supérieur à celui du Borussia Dortmund, et le Borussia Dortmund perd littéralement la Bundesliga alors que le Bayern de Munich les avait offert une possibilité en or de pouvoir remporter la Bundesliga. Donc, c'est très pénible de voir ça. C'est très pénible pour voir leur capitaine, Marco Reus, qui joue pour le Borussia Dortmund depuis 2012, qui a une carrière très difficile, faut dire.
Les
nombreuses blessures sérieuses qui ont fait qu'il a raté la Coupe du Monde en 2014 ou qu'il aurait pu être champion du monde. Puis, de nombreuses reprises, a terminé dauphin de la Bundesliga et a vu plusieurs grosses vedettes du Borussia Dortmund quitter à travers les années, ouais. Que ce soit Mario Götze, que ce soit Robert Lewandowski,
Aubameyang,
Haaland,
il va voir Bellingham.
Le Bellingham va partir aussi également. Ouais. Bellingham qui
s'en va au Real Madrid.
C'est une question de temps, mais qui va quitter ouais. le Borussia Dortmund pour aller au Real Madrid pour à peu près 100 millions d'euros. C'est ça. Perdu également la Ligue des Champions en 2013 face au Bayern de Munich encore une fois. Puis ne perd la bonne escale de cette façon-là. C'est très triste pour Marco Reus qui est le Michael Ballack de son époque. Donc, c'est triste de voir un grand joueur quand même, Marco Reus, et que nombreux joueurs hyper talentueux qui est resté quand même fidèle au Borussia Dortmund, qui aurait pu partir depuis de nombreuses années, puis qui a décidé de rester avec eux. Puis, malheureusement, c'était son opportunité de remporter une Bundesliga, puis son équipe l'échappe. C'est pas compliqué, son équipe l'échappe.
Tu l'as très bien résumé, c'est tellement terrible, c'est tellement triste pour le Borussia Dortmund, mais en même temps, ils peuvent seulement reprocher à personne d'autre qu'eux. C'est eux qui l'ont échappé. Ils devaient gagner, ils avaient tous les moyens pour gagner, ils étaient à domicile, comme tu l'as dit. Ils entament très mal leur match en encaissant deux buts, puis ils ne sont pas capables de remonter après. C'est complètement de leur faute. Mais niveau partisan, je dois dire que j'aurais aimé voir Dortmund gagner. Je trouve que cette année, ils avaient une plus belle équipe que le Bayern avait. T'sais, le Bayern, on en a parlé beaucoup à Jason Ballon rond, mais n'avait pas d'attaquant de pointe principal, de premier plan en fait. N'avait pas une aussi belle chimie, une aussi belle cohésion dans l'équipe. Sadio Mané, ça a été difficile. Sané, Gnabry également. Des blessures en défense, notamment Davies, Neuer qui se blesse aussi. Donc, c'était pas la plus belle équipe du Bayern dans les dernières années. Loin de là, il y a eu aussi un changement d'entraîneur, Nagelsmann, Tourelle. Donc, c'était vraiment pas la plus belle équipe du Bayern. Puis là, tu as Dortmund avec des joueurs très intéressants. Daniel Malin qui a été très bon en fin de saison. Jude Bellingham qui est phénoménal au milieu de terrain. Marco Reus qui a encore une fois des petites blessures, mais reste un joueur important pour Dortmund. Il y en a plusieurs que je nomme pas. Là, Julian Brandt qui était sur le banc.
Puis il y a Rafael Guerreiro qui va partir aussi, que ça fait des années qu'il est là aussi.
Rafael Guerreiro, très bon. Sébastien Haller qui a battu un cancer et qui est revenu puis qui a joué du bon soccer. Donc, c'est puis Guerreiro, très bon point que tu apportes, lui qui va rejoindre le Bayern d'ailleurs. C'était une très belle équipe Dortmund. Elle méritait de gagner devant le Bayern. C'est juste à cause de elle qu'elle l'a échappé, puis c'est triste, mais ça continue la séquence du Bayern, puis écoute, c'est phénoménal ce qu'ils accomplissent, là. C'est quoi, c'est un 12e titre d'affilée, si je me trompe
ouais,
là?
Ouais,
2013 à 11e. 11e. Voilà. 2013 à 2023, ça fait 11. Ouais. Fait que 11e titre d'affilée, c'est exceptionnel au Bayern, bravo à eux, mais vraiment, je pense que Dortmund était une plus belle équipe, du moins cette année, puis ça s'est joué à très peu de détails. Bon, on est rendu au gros sujet. Le deuxième plus gros match de cette saison, parce qu'évidemment, le plus gros match, c'est la finale de la Coupe du Monde. Cette finale-ci de la Ligue des Champions ne pourra pas battre la finale de la Coupe du Monde.
Impossible,
mais c'est quand même c'est extrêmement gros comme match, quand même, une finale de Ligue des Champions. Manchester City contre l'Inter de Milan, d'où, on ne va pas se le cacher, le Man City est hautement favorite de très, très loin. Qu'est-ce que l'Inter Milan, quelles sont les forces de l'Inter Milan, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en sorte qu'ils battent Manchester City?
Écoute, c'est pas compliqué, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils marquent très tôt dans la rencontre. Moi, je pense que s'ils marquent dès le départ, puis qu'ils mettent City dans le trouble, puis qu'ils brisent leur confiance, moi, je pense que c'est vraiment ça qui va faire que l'Inter Milan va être capable de remporter ce match-là. Puis deuxièmement, c'est défensivement. Il ne faut pas qu'il accorde d'occasion de marquer à des Haaland. Il ne faut pas qu'il laisse des trous à certains joueurs de Manchester City. Là, on parle
de Bruyne,
Bernardo Silva. Évidemment, Gundogan aussi. Dans ce genre de rencontre-là, en plus, Ilkay Gundogan, c'est un joueur parfait pour être phénoménal. Mais c'est ça, donc t'as encore pas de chance, puis surtout toi qui marque très tôt dans la rencontre, parce que pour vrai, si Manchester City marque en premier, c'est le match est terminé, ça va être un sens unique. Donc Écoute, t'as 100% raison. T'as 100% raison. Manchester City est clairement l'équipe favorite pour remporter la Ligue des Champions maintenant. Puis, écoute, l'équipe favorite pour cette finale-là qui va aller du côté d'Istanbul demain. Puis, écoute.
Samedi, oui.
Ouais, écoute, on verra ce qui se passe, mais. Ouais. Moi, je pense que, en tout cas, je sais pas si je peux faire ma prédiction.
Attends, j'ai une autre question pour toi avant qu'on s'en ait prédiction. Bon, c'est ça. Manchester City, j'ai pas besoin de parler de leur force, là, on en a parlé tout au long. L'Inter Milan, par contre, j'ai une interrogation de mon côté, je veux avoir ton opinion. On a trois strikers, puis on en fait jouer habituellement deux du côté de l'Inter Milan. On a Dzeko. On a Lukaku, on a Lautaro Martinez. Pour moi, Lautaro Martinez est très bon dans les dernières semaines. C'est sûr qu'il est titulaire. Lukaku aussi n'est pas pire dans les dernières semaines, mais c'est souvent Dzeko qu'on met en Ligue des Champions. Mm-hmm. Qui est titulaire entre ces deux-là pour toi pour commencer le match du côté de Milan?
Je pense que ça va être Romelu Lukaku. Je pense que Romelu Lukaku a une capacité physique qui fait qu'il peut déranger un Akanji. Je pense pas qu'il va être capable de déranger Ruben Dias, mais. Peut-être que son côté physique peut réussir à déranger les défenseurs de Manchester City pour offrir de l'espace. Puis par la suite, si Lautaro Martinez est dans une bonne forme, peut réussir à compléter. Mais Lautaro Martinez, des fois, dans les matchs, dans les grands matchs, il a tendance à un peu disparaître. Donc, ça va être intéressant de voir. Mais je pense que pour l'instant, je pense que Romelu Lukaku devrait être titulaire. Mais pour moi, je pense que comme joueur de football, je préfère mieux le style de jeu de Edin Dzeko. Moi, c'est Dzeko. Pour moi, c'est un des attaquants les plus sous-estimés des 15 dernières années à mon avis. Avec un ancien que je veux mentionner, Mario Mandzukic, pour moi, les deux étaient les deux attaquants les plus sous-estimés d'Europe. Puis écoute, c'est fou quand même que
Van Persie aussi.
Ben, Robin Van Persie, je trouve qu'il est beaucoup moins sous-estimé que Dzeko ou Mandzukic. Et Robin Van Persie a quand même été le meilleur buteur de Première Ligue à deux reprises, une saison de 30 buts à Arsenal.
Mais j'ai l'impression qu'on revient pas, qu'on l'oublie ça dans le cas moi.
C'est sûr qu'il est moins
sous-estimé.
C'est un joueur sous-estimé encore une fois, mais beaucoup moins sous-estimé si on compare à Edin Dzeko et Mario Mandzukic. Mais pour répondre à ta question, c'est Romelu Lukaku, je pense qu'il va être titulaire.
Je pense aussi, je pense que c'est la bonne décision là, pour. Parce que c'est tellement physique, là, la défense de City. Là. Kyle Walker, Akanji, Diaz, puis je ne sais pas si on le fait jouer à Ethan Ake, là, je ne me rappelle pas, mais lui aussi, Nathan Ake est très solide physiquement. Tu as John Stones aussi qui va être... Est-ce qu'il va être encore utilisé en milieu de terrain, John Stones? Ça va être,
probablement avec
Rodri, qui est très physique lui aussi.
Ouais,
fait que ça va être fou. Faut essayer d'aller bouger ça un peu. Là. Fait que je pense que Lukaku serait une bonne solution. Puis Dzeko qui entre, c'est serré, là, Dzeko qui entre à la 70e minute, il peut aller chercher un but en fin de match, Dzeko. Fait que je pense que ça pourrait être une bonne solution pour du côté de l'Inter. Ça reste que je vois pas comment l'Inter de Milan va gagner ça. Honnêtement, moi, c'est le temps des prédictions. Là, moi, je vais dire 3-0 pour Manchester City. C'est assez simple. Là. Je peux même y aller avec les buteurs. Gundogan, Haaland et De Bruyne. Voilà. C'est simple de même.
Moi, je pense que ça va être 4-1.
4-1.
Je pense que c'est surtout Gundogan puis Bernardo Silva qui vont marquer. Je pense que Rodri aussi peut marquer dans cette occasion-là. Puis écoute, pourquoi pas un but de la tête de défenseur. Moi, je pense que Ruben Dias peut marquer un but de la tête.
Tu vas avec les buteurs, c'est Dias, Gundogan, Bernardo Silva et qui t'a dit?
Je pense que je verrai encore un doublé de Gundogan. Je pense que Gundogan peut marquer deux buts dans cette finale-là.
Donc, aucun but de ni Haaland ni De Bruyne.
Est-ce
que Bernardo Silva va être titulaire? C'est ça la question.
Ben écoute, après son match contre le Real Madrid, je pense que c'est un no-brainer. Hein. Je pense...
Ouais, c'est vrai.
C'est
vrai qu'on l'utilisait... Ouais, parce qu'on on va mettre Grealish à gauche encore, j'imagine.
C'est Grealish. Mais Grealish, parce que c'est défensivement qui est excellent, Jack Grealish, surtout. Là, parce que je trouve qu'offensivement, je pense qu'il y a des meilleures options que Grealish. Là. Je m'excuse, mais t'es à Phil Foden, tu ne mets pas ça sur la barre.
Ça a été ça toute la saison, on n'a jamais utilisé Phil Foden, ou presque. Ouais,
Phil Foden ou Grealish. Mais écoute, Grealish, peut-être que c'est son price aussi, son prix, là, qui est assez fou.
Écoute, je pense pas que Pep, je ferais jouer Grealish juste pour son prix. Je pense qu'il a une bonne saison, il faut le dire. Je pense pas qu'il mérite un transfert de 100 millions, mais il a une bonne saison. Puis oui, défensivement, je pense que Pep l'aime bien. Et tu as raison, Bernardo Silva va jouer. Mais 4-1 avec aucun but de ni Allan ni Dobrun, j'aime ça. C'est une prédiction quand même audacieuse. Mm-hmm. Fait que là-dessus, Dou, je vais te souhaiter une très bonne finale de Ligue des Champions. Ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Donc, on va mettre fin à cet épisode-là. Ben, bonne finale à toi, bonne finale à tous nos auditeurs qui regardent ça. Puis on espère du spectacle puis du bon soccer comme d'habitude.
Yes, good.
Salut à tous, merci d'avoir écouté Jason Ballon Rond. On se revoit très bientôt pour un autre épisode. Salut.